Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho de ma commune et de mon canton. Christophe Jubien pour vous accueillir. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le général Richard Lizuré. Après une longue et brillante carrière dans la gendarmerie nationale qui s'est conclue par un poste de directeur général, le général Richard Lizuré est donc devenu en décembre 2020 huitième adjoint au maire de Chartres en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Je suis donc très heureux de le recevoir aujourd'hui dans les studios chartrains de Radio Grand Ciel pour évoquer les problèmes de sécurité urbaine dans le périmètre chartrain, mais aussi peut-être, si l'on accepte le principe, de parler des problèmes d'insécurité au niveau national, parce que cette question est devenue centrale dans un certain nombre de villes françaises. Marseille n'est plus hélas l'exception. On parle souvent de Bordeaux et Nantes notamment aujourd'hui, puis parfois des petites villes hein, comme Dijon, Alençon, qui connaissent comme ça de temps en temps des bouffées de violence sur fond de trafic de drogue ou pas. D'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire. Enfin, en tout cas, la violence est devenue un problème français. Bonjour Richard Lizuré.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir. On va peut-être, pour commencer, essayer de mieux vous connaître. Comment vous êtes devenu général de gendarmerie? Ça a commencé à Saint-Cyr.
Oui, absolument. Alors, ça a commencé même bien avant, puisque j'étais en école militaire préparatoire, à Autun exactement. Donc, je suis ancien enfant de troupe, comme on le dit. Et effectivement, aucun militaire dans ma famille. J'ai découvert cette carrière, j'ai découvert ces perspectives. L'école spéciale militaire de Saint-Cyr est une bonne école, une belle école, dans laquelle on apprend le socle du commandement, de l'engagement. Et à partir de là, à la sortie de ma formation, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gendarmerie nationale et ensuite faire une carrière de 40 ans dans la gendarmerie, dans des postes extrêmement divers, toujours passionnants. Je ne me suis jamais ennuyé une seconde.
Y compris dans des ministères.
Compris dans des ministères, puisque j'ai eu la chance d'être au cabinet du ministre de la Défense, Alain Richard, à l'époque, quand la gendarmerie était encore à la Défense. J'ai eu la chance aussi d'ensuite de servir au ministère de l'Intérieur comme conseiller de Brice Hortefeux et Claude Guéant, ministre de l'Intérieur. Et puis, effectivement, ça permet de voir un petit peu le fonctionnement de l'État dans sa phase décisionnelle, comment on analyse les choses, comment on réagit et puis comment on met en place des politiques de sécurité publique.
En fait, vous êtes un adjoint de luxe, hein?
Un adjoint de luxe, peut-être pas. En tout cas, l'idée, avec Jean-Pierre Gorge, qui m'a sollicité, et je le remercie, c'est d'essayer d'apporter une compétence. Chacun a la sienne. Et d'abord, ma compétence à moi, c'est mon souhait d'engagement, et au-delà des connaissances des uns et des autres. Je crois qu'il faut, au sein d'une collectivité, ne pas rester spectateur. Il faut être acteur, chacun à son niveau, chacun avec sa manière de voir les choses. Et c'est le collectif qui l'emporte, bien entendu. Mais je crois que la ville de Chartres et l'agglomération, c'est une zone qui, aujourd'hui, alors après, avec des côtés parfois difficiles, mais une zone qui est quand même assez apaisée et dont j'apprécie, moi, justement, ce caractère serein, notamment quand je le compare avec la vie parisienne, hein, qui est une vie, je dirais, à 100 à l'heure. Et j'ai eu envie de participer à cette construction collective d'une ville apaisée, parce qu'elle a été apaisée avant moi. Le dispositif de vidéoprotection, la mise en place de police municipale, une politique de sécurité a été mise en place depuis le premier mandat de Jean-Pierre Gorge en 2001. Je lui en rends hommage d'ailleurs parce qu'il a fait partie de ces maires et de ces responsables précurseurs qui, à l'époque, en fait, mettaient en place la vidéoprotection alors qu'une grande partie dénoncer une espèce de soi-disant caractère liberticide, ouais. Ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde en demande.
Tout le monde en met, hein, quelle que soit la couleur politique.
Mais voilà, il faut reconnaître à celles et ceux qui ont anticipé, et Jean-Pierre Gorge en fait partie, je crois que c'est, encore une fois, tout à son honneur, au-delà de son caractère visionnaire pour les grands projets, ouais. Pour le coup, alors ça, c'est pas mon domaine de compétences spécifiques, mais là, c'est en tant que citoyen. Ouais. Moi, j'ai pu observer, en fait, moi, mon épouse est de Chartres, et donc ça fait 40 ans qu'on est mariés, et donc j'ai vu la ville évoluer depuis 40 ans. Ouais. Et cette ville a évolué dans le bon sens. Il y a eu des travaux, il y a eu une facilitation de la vie quotidienne des chartraines et des chartrains. Et ça, c'est lié évidemment à l'équipe municipale sous la houlette de son maire. Et ce caractère visionnaire et cette continuité dans l'action n'est pas donné à tout le monde, en fait.
Un maire bâtisseur.
Un maire bâtisseur, absolument, ouais. Oui. Parfois avec des difficultés, parce que Aujourd'hui, depuis quelques années, malheureusement, celui ou celle qui s'engage dans une action importante, dans des grands projets, a toujours en face de lui, comme on dit, d'abord ceux qui avaient la même idée, qui auraient aimé l'avoir, ceux qui sont contre, et puis la grande majorité de ceux qui font rien, quoi. C'est-à-dire que globalement, quand on fait rien, généralement, c'est assez facile de critiquer. Donc c'est pour ça que le maire bâtisseur, il a cette double qualité, d'abord d'avoir une vision, d'avoir une action, mais aussi d'avoir résisté à toutes les sirènes des uns et des autres qui lui expliquaient que peut-être, si on faisait rien, ça marcherait mieux, quoi.
Alors vous voilà dans une ville apaisée, alors, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Oh, franchement, je regardais sur votre page Wikipédia, qui est très conséquente, votre carrière, au gré de vos affectations, a été parsemée de rendez-vous avec, carrément avec l'histoire. La prise d'otage d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en 1988, l'explosion de l'usine AZF en 2001 et l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes que vous avez dirigée personnellement hein, en 2018.
Oui, absolument.
Voilà
oui.
Qui vous blinde un cuir, non ?
Ben, en tout cas, ça marque professionnellement. Ça a toujours été des moments extrêmement paroxystiques, vous l'avez dit, sur le plan historique, mais dans lesquels on apprend beaucoup de choses. D'abord, on apprend des choses sur soi-même, parce qu'on est tous persuadés de détenir la vérité, de faire ce qu'il faut. Ben, parfois, dans ces circonstances-là, on s'aperçoit que le collectif doit l'emporter et qu'effectivement, il faut être humble face à l'événement. Les événements que vous avez cités sont des événements dramatiques. Hein, la prise d'otage d'Ouvéa, il y a quand même eu quelques morts. Ouais. L'explosion de l'AZF également, plusieurs dizaines. Notre-Dame-des-Landes, heureusement, on n'a pas eu à déplorer.
On peut revenir sur cette. Parce que oui, c'est vous qui l'avez dirigé, qui l'avez condamné finalement. Comment vous avez abordé le truc? Parce que c'était vraiment extrêmement médiatisé à l'époque. Les esprits étaient à vif, d'un côté comme de l'autre.
Ça a été un grand travail de préparation. Parce que ce type d'opération, ça ne se fait pas comme ça, par hasard, sur le coin d'une table. Ça se prépare, ça s'est préparé. Bonne année avant, et effectivement, à l'arrivée du nouveau président de la République, il a souhaité qu'on mette en place un dispositif, d'abord pour évaluer l'opportunité de faire ou pas faire l'aéroport, ça a été un élément déterminant dans la décision, et ensuite, notre travail à nous, gendarmerie, c'était de planifier au sein du ministère de l'Intérieur, sous la houlette donc du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb à l'époque, de son directeur de cabinet, Stéphane Fratacci, et de la préfète locale, Nicole Klein, avec laquelle j'ai travaillé au quotidien. Et donc c'est d'abord la préparation, la planification, préparer tout ce qui est montée en puissance des forces, la logistique. La logistique, on était quand même sur place, 2500 gendarmes à vivre H24, donc il fallait les loger, il fallait les nourrir, il fallait réparer les véhicules, il fallait effectivement préparer un peu l'ensemble de l'intervention. Donc ça a été professionnellement quelque chose d'assez exceptionnel. Et là aussi, la gendarmerie, moi-même, j'étais le bras armé du gouvernement, pour le coup. Il s'agissait pas de... C'était pas un combat individuel, c'était vraiment une vision d'ensemble. Moi, j'étais en relation régulière avec, évidemment, le ministre de l'Intérieur, mais aussi le Premier ministre, qui, encore une fois, Édouard Philippe, a suivi les opérations au quotidien, ouais. Avec des points de situation, avec, encore une fois, à chaque fois, des orientations, des directives politiques, puisque évacuer une zone, c'est un acte technique, mais derrière, il fallait reconstruire le lien entre les ex-zadistes et l'État, entre les ex-agriculteurs et l'État. Et encore une fois, la vie continue. Ouais. Une opération, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un moyen de redécouvrir finalement la présence de l'État dans des territoires où parfois il est un peu malmené. Et dans ce cadre-là, en fait, l'ensemble des acteurs ont un rôle à jouer. Ouais. Donc moi, j'ai été, je dirais, le bras armé de ce dispositif. Et j'ai contribué, avec, encore une fois, mes troupes, modestement, à la réussite.
Oui,
je crois qu'il faut parler de réussite.
Oui,
parce
tout le monde le dit. Hein, c'était une réussite. Il n'y a pas eu de blessés graves d'un côté comme de l'autre. Mais j'imagine quelle pression ça a dû être. Parce qu'on sait très bien qu'aussi que les politiques ont tendance parfois à lâcher... quand quelque chose se passe mal, à lâcher un peu
C'est vrai, mais pour le coup, comme on dit aujourd'hui, je n'ai jamais senti ni perçu l'ombre du début du commencement d'un doute chez le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou le Président de la République. Ouais. Vraiment, ça a été aussi une des conditions, je dirais, du succès, une des clés du succès. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on m'a dit « oui, vous auriez dû faire ci, ça, ainsi de suite ». Non, ça a été concerté. Les uns et les autres ont assumé. Il y a eu, encore une fois, médiatiquement, les premiers jours, quelques petites difficultés aussi. Mais là, pour le coup, on était vraiment un collectif politique et opérationnel. Et ça a été un élément déterminant de la réussite de la manœuvre.
Alors, j'en reviens à Chartres. Dans les mois qui ont précédé votre entrée en fonction, une rixe mortelle a eu lieu dans le centre-ville, un affrontement entre bandes rivales qui s'est conclu par un homicide au couteau. Est-ce que ce fait d'ivoire a à voir justement avec votre envie de donner un coup de main ?
Alors, pas directement. C'est-à-dire que malheureusement, ce fait divers, ce drame, en fait, a amplifié mon souhait de contribuer à la vie locale. Ce fait divers a démontré également que nulle part, on pouvait se targuer d'une sécurité absolue, de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on prenne en compte la totalité des menaces, la totalité des difficultés. Les RICS, comme vous le souhaitez, comme vous le soulignez, en fait, en font partie. Et les RICS continuent aujourd'hui, sont surveillés par la police nationale, la gendarmerie nationale, sous l'autorité du parquet, qui a créé un groupe local de traitement de la délinquance, sous l'autorité de Madame le Préfet, qui l'a aussi régulièrement fait des points de situation. Ce phénomène de RICS est un phénomène, je dirais, un peu irrationnel, parce qu'il ne répond pas à nos standards habituels. Nos standards habituels, c'est je vole, il y a la délinquance, il y a les nuisances entre voisins, ainsi de suite. Alors que là, on est dans des choses qui échappent à la rationalité.
C'est une logique de quartier, finalement, c'est-à-dire de territoire, de défense du territoire.
C'est des logiques de quartier, des logiques d'ethnie, d'abord, en fait. Là, en l'espèce, on est plutôt dans des ethnies, dans des communautés, en fait. Et cet aspect communautariste est un aspect extrêmement dangereux, parce que, en fait, là aussi... On est dans des choses qui renvoient peut-être à des actions d'il y a 2-3 ans. Ah ben oui, mais il y a 2-3 ans, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, donc moi, je reviens. Enfin, et donc, c'est imprévisible.
C'est un problème politique.
Alors, ce n'est pas un problème politique. Je ne pense pas que ce soit un problème politique. C'est vraiment un problème de connaissance des communautés, de ces communautés qui sont souvent des communautés assez fermées, en fait, qui vivent entre elles, en réalité. Et donc, c'est des bandes, les bandes les unes contre les autres, quoi. La politique peut apporter en fait un accompagnement, la politique peut apporter une réactivité, une intervention, mais au sein de ces communautés, la politique, globalement, est assez démunie en réalité. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est, encore une fois, accompagner, prévenir, être présent, mettre en place les outils pour éviter que ça se produise. La vidéoprotection, vous citiez justement le cas du décès et du meurtre d'un jeune. En fait, cette affaire a pu être résolue grâce à la vidéoprotection. C'est-à-dire que ça s'est fait dans l'angle d'une caméra. La caméra, en fait, a filmé toute la scène.
Je rappelle que c'était près de la médiathèque de Chartres.
Voilà, près de la médiathèque. Donc voilà, la caméra a pu, je dirais, filmer toute la scène. Et du coup, en fait, on a pu identifier l'auteur, le traduire devant la justice.
Ouais. Ce qui est terrible, c'est que finalement, la victime était connue, je crois, des forces de police. Pas l'auteur. L'auteur avait un casier vierge. Il ne faisait pas du tout parler de lui. Il s'est retrouvé finalement avec un couteau dans la main, un peu par hasard. Et puis, il y avait tous ses copains de quartier. Et puis voilà.
C'est le phénomène de groupe. Hein. Vous savez, quand on est dans un bureau ici, tranquille, on est tout seul, bon, globalement, on peut disserter sur plein de choses. Quand on est intégré dans un groupe, on subit la pression du groupe, qui que ce soit. D'ailleurs, il est renvoyé au hooliganisme il y a de nombreuses années en Angleterre. En fait, on avait parmi les hooligans des gens extrêmement bien insérés dans la société.
Des pères de famille.
Mais dès lors qu'ils rentraient dans ce groupe, en fait, leur personnalité leur échappait, en fait. Et là, je pense qu'on est dans la même logique. Il peut y avoir une logique de territoire. Le lycée, tu n'es pas de notre lycée, donc on va te faire une vie pas possible. Ou alors, effectivement, une communauté qui n'accepte pas qu'un de ses membres ou une de ses membres aille discuter avec un autre. Parce que là aussi, on est à la fois dans le communautarisme et dans le sectarisme, en fait. Ouais. Et donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il faut qu'on continue à les accompagner, à les observer, et puis, de temps en temps, à les interpeller. Parce que quand ils sont en infraction, il faut évidemment agir.
Là, vous me parlez presque comme un psychologue, là. Un psychosociologue.
Mais la sécurité, c'est de la psychologie.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Bien sûr.
Vous êtes obligé d'étudier, par exemple, vous avez été le patron des gendarmes français, hein, mais on est obligé justement d'étudier la psychologie des masses, des bandes, etc., pour bien comprendre leur fonctionnement.
On est obligé, oui et non. Oui, on est obligé, en réalité. Alors moi, j'ai fait un certificat de criminologie à la faculté d'Assas, et c'est important de connaître, ou en tout cas d'appréhender les ressorts individuels. Et les ressorts collectifs d'une action qui, quelque part, est une action délinquante, qui peut être une action délinquante. Pourquoi les gens font les choses ? Ce n'est qu'en essayant d'appréhender ce pourquoi qu'on peut travailler sur le comment. Oui. Une personnalité est toujours une personnalité complexe. On a chacun notre histoire, chacun notre expérience. Et si on n'essaie pas de comprendre, à un moment donné, on n'arrivera pas à prévenir. D'ailleurs, dans le cadre d'une enquête judiciaire, souvent, le premier acte, au-delà des constatations elles-mêmes, c'est une enquête de personnalité, en fait. Oui. On essaie de regarder qui est l'auteur de tel ou tel fait de délinquance, parce qu'à un moment donné, c'est important, pour ensuite savoir aussi appréhender la manière de le juger. Bon, ça, c'est le rôle de l'autorité judiciaire, mais l'autorité judiciaire a besoin d'explications, a besoin de savoir pourquoi. La motivation, c'est ce qu'on appelle l'élément moral, en fait, dans une infraction. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on transgresse la loi, de manière à ce que demain, on puisse en tirer les conséquences et dire, OK, ben, à ce moment-là, travaillons sur les causes plutôt que de travailler que sur les conséquences.
Alors comment vous travaillez sur les causes? En tant qu'adjoint de la sécurité, par exemple, est-ce que vous pouvez vous appuyer, par exemple, sur des éducateurs de rue? On sait qu'il y a eu des services de prévention spécialisés, notamment à Mainvilliers, etc. Est-ce qu'on s'appuie aussi sur le préventif?
Bien sûr. Alors d'ailleurs, on a fait une réunion récemment dans le quartier de la Madeleine. Et on était, alors, il y a sous l'autorité évidemment de Madame le Préfet, Jean-Pierre Gorge qui était présent, le directeur départemental de la sécurité publique, et on a évoqué à cette occasion-là la partie prévention. Elisabeth Fromont, la première adjointe au maire, qui est chargée notamment d'organiser le travail des différents services, est intervenue pour expliquer ce qui était fait dans ce domaine-là, pour aller vers les jeunes, pour les faire, les intéresser en réalité à des activités diverses et variées, notamment cet été où il y a eu les quartiers d'été, il y a eu un certain nombre d'activités sportives. Pour les vacances de novembre, ce sera la même chose. Et donc c'est important d'essayer de rentrer justement dans la logique et dans les besoins de ces jeunes, dans le quartier de la Madeleine par exemple, puisque c'est celui dont on parle, mais c'est vrai ailleurs. Et dans ce cadre-là, nous avons ici ou là des médiateurs, on a effectivement des gens dont le travail est de faire ce lien. Et ce lien est essentiel, parce que si on ne connaît pas les autres, on a toujours des problèmes pour discuter, toujours des problèmes pour trouver une solution. Ce n'est qu'en travaillant de manière collective qu'on arrive à trouver une solution qui convienne à tout le monde. Alors, il y a, encore une fois, le monde idéal n'existe pas, mais ce qui est important, c'est d'échanger pour arriver à progresser sur la voie de l'efficacité.
Ouais. Alors, la solution à la baleine, ce serait quoi? D'abord, quels sont finalement les problèmes? On sait qu'il y a eu des tirs de mortier sur la police, etc. Il y a un peu de trafic. Le problème central, c'est quoi, la Madeleine?
Alors, la Madeleine, il y a effectivement eu, autour du 14 juillet, des événements un peu de violence urbaine, je dirais, bon, pour parler. Alors, évidemment, ces violences urbaines n'ont rien à voir avec celles qu'on peut trouver peut-être ailleurs, en région parisienne, mais n'empêche que c'est un signal qu'il faut prendre en compte, qui est pris en compte. Et au quotidien, on a aussi les incivilités qui perturbent la vie des citoyens, avec des nuisances sonores, avec parfois une présence, je dirais, ostensiblement... pas agressive, mais un petit peu vindicative de jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire. Alors, quand on fait rien, généralement, l'oisiveté est la mère de tout le vice, comme on dit. Hein. Quand on n'a rien à faire, généralement, ben, on va aller embêter son voisin. Et là, on est vraiment dans cette logique-là. Alors, on n'est pas, pour être tout à fait honnête de mon point de vue, on n'est pas dans une situation paroxystique, encore une fois, qui mériterait une mobilisation générale, ainsi de suite. N'empêche que, on est dans une situation où on a une fermentation sociale, une fermentation délictuelle dont il faut tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des services de l'État, de manière préventive, est présente, et je remercie encore une fois l'État de son soutien à la fois budgétaire et en termes de moyens, pour aller à la rencontre des jeunes, pour les accompagner, pour les...
Ouais. Vous travaillez donc en étroite collaboration avec le DDSP, avec...
Oui, et là, je dois dire que j'ai trouvé à Chartres ce que j'appelle, moi, un alignement des planètes positives. vous savez... Souvent, les institutions, les structures, en théorie, ça marche toujours. Ouais, comme on dit toujours, quand je serai grand, j'habiterai en théorie, parce que ça marche toujours. Alors, mais ça ne marche pas toujours, malheureusement, et ça ne marche que lorsque les gens, les personnes qui sont dans les structures, responsables des structures, s'entendent. Et il se trouve qu'à Chartres, on a vraiment des gens qui s'entendent. Que ce soit du côté préfectoral, du côté de la justice, du côté de la police, du côté de la gendarmerie, du côté de la mairie, de l'agglomération... On a des gens qui ont envie de travailler avec les autres. Et ça, c'est quand même extrêmement positif. Et pour le responsable que je suis, à mon humble niveau, je trouve ça très, très, très rassurant. D'ailleurs, on a cet après-midi la réunion de la zone urbaine du comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, où les maires travaillent actuellement pour mettre en place une police municipale pluricommunale. C'est-à-dire que la police municipale, aujourd'hui, elle est liée
à la ville.
À la ville. L'idée, c'est que demain... Les polices municipales pourront travailler ensemble, quelle que soit la commune d'appartenance. Oui, Chartres pourra travailler sur Lucé, qui pourra travailler sur Mainvilliers, qui pourra travailler sur Champfolles. Partout où il y a la police municipale, l'idée, c'est que on traverse la frontière administrative. Les délinquants, eux, ils n'ont pas de sujet. Et donc, là, on s'adapte. Et cet après-midi, justement, le thème de la réunion, c'est ça. Et dans le cadre du contrat de sécurité intégrée qu'on a signé avec l'État, on est bien sur cette logique-là, avant la fin de l'année, de mettre en place cette police municipale pluricommunale. Et c'est important parce que c'est une vision globale. Le collectif, c'est pas des idées individuelles qu'on met bout à bout. C'est vraiment quelque chose qu'on partage, quelque chose qu'on évalue, avec, encore une fois, le côté préventif, le côté répressif. Mais le bras armé, c'est bien entendu les gens qui sont sur le terrain, que ce soit les médiateurs, que ce soit les polices municipales, ou le matériel, on parle de vidéoprotection, par exemple, hein, qui est quand même un élément essentiel et important aussi de la politique de sécurité.
Ouais. Alors, on n'a pas parlé de trafic de drogue, parce que c'est quand même un des phénomènes importants aujourd'hui. On sait très bien que les tirs de mortier sur les forces de police, c'est souvent parce que les policiers, justement, font leur boulot et de manière efficace et dérangent les activités illégales, quoi.
Oui, alors c'est vrai que le trafic de drogue, malheureusement, c'est aujourd'hui généralisé, j'allais dire. Hein. Il y a quelques années, on parlait des grands centres urbains, et puis la partie un petit peu périurbaine ou rurale était un peu, j'allais dire, préservée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la drogue est présente partout, malheureusement. Et donc, effectivement, il y a un travail à faire dans la durée. Je salue le travail de la police nationale sur Chartres et sur, encore une fois, cette zone urbaine. La gendarmerie aussi dans sa zone de compétence, parce que il y a eu des affaires extrêmement intéressantes et une présence surtout continue dans ces secteurs. Alors c'est sûr que quand on est citoyen, qu'on voit un trafic de drogue ici ou là, enfin qu'on imagine voir un trafic de drogue, on s'est dit pourquoi c'est pas réglé dans l'heure ou dans la journée, parce que derrière il y a toute une logique de constatation, de surveillance et de constitution d'un dossier. C'est ce qui prend parfois du temps. Entre le moment où on constate quelque chose et le moment où on peut interpeller et traduire les gens en justice, il y a du temps qui se passe et il faut des documents, il faut des procédures judiciaires qui permettent justement, au final, à l'autorité judiciaire de prendre la bonne décision et de prendre une décision juridiquement carrée. Donc c'est un petit peu la difficulté, l'asymétrie entre la volonté du citoyen de voir tout de suite les points de deal éliminés, et puis, encore une fois, les nécessités des enquêtes judiciaires qui, elles, prennent du temps. Ouais. Parce qu'il faut, comme on dit, boucler le dossier de manière correcte pour que les choses se passent au mieux. Ouais. Mais alors, le trafic de drogue est présent, malheureusement, à Chartres comme ailleurs, et encore une fois, l'ensemble des services. Alors, la police nationale, bien entendu, dans ses prérogatives de police judiciaire, travaille là-dessus. La police municipale également. Et je remercie les policiers municipaux de Chartres parce que leur action est quotidienne, notamment à la Madeleine, mais sur l'ensemble de la commune.
C'est une présence sécurisante, la police municipale.
C'est une présence sécurisante. Alors, la police municipale, elle a un logo que je souhaitais lui donner. C'est respect, courtoisie, bienveillance. La police municipale, elle est là au service de la protection des citoyens. Elle est là pour aller vers les citoyens. Les citoyens, les commerçants, l'ensemble des usagers qui ont besoin, je dirais, à la fois de renseignements, de protection et d'accompagnement. Elle est installée aujourd'hui au pôle administratif, donc elle a déménagé. Hein, elle n'est plus à l'hôtel Malassis, elle est au pôle administratif et à la disposition de l'ensemble des usagers et des citoyens. Et son action, encore une fois, elle est quotidienne. Tous les jours, vous avez des patrouilles de la police municipale à l'extérieur, et tous les jours, ils passent à la Madeleine, par exemple. Ouais. Ils passent, et de ce que j'ai pu en constater, à travers les témoignages des citoyens que j'ai rencontrés, en tout cas, la police municipale, son action est appréciée, positivement. En disant, on les voit, effectivement, ils viennent nous voir, ils sont disponibles. D'ailleurs, pour la Madeleine, on a un référent à la police municipale, qui est chargé justement de ce lien. Il était présent à la dernière réunion publique, M. Jonathan Duval. Et je salue encore une fois à la fois son action à lui, mais ensemble, l'action de l'ensemble de la police municipale de Chartres, qui ne comptent pas leurs heures, encore une fois, au service de la sécurité des Chartraines et Chartrains.
Il nous reste 3-4 petites minutes. J'aimerais qu'on élargisse un peu l'angle de cette émission pour évoquer les violences urbaines. On a l'impression, quand on ouvre un journal ou qu'on parcourt les réseaux sociaux, que non seulement la violence se généralise, mais qu'elle est devenue gratuite. Et il y a un sociologue qui parle aujourd'hui de surviolence, un phénomène de surviolence, c'est-à-dire que la violence elle-même est de plus en plus violente. On va achever quelqu'un un coup de marteau dans la rue, etc. En 40 ans de gendarmerie, est-ce que vous avez eu le sentiment, est-ce que vous avez vu monter justement cette insécurité, cette sorte de folie parfois qui...
Oui, alors j'ai moi-même ce sentiment effectivement d'une augmentation de la violence. Vous parlez de folie, c'est intéressant parce que je crois que c'est aussi un des aspects de dispositif. Là-dedans, on a à la fois de la délinquance consciente, c'est-à-dire des gens qui viennent faire un acte de délinquance et qui retrouvent en face d'eux une menace ou un blocage et à ce moment-là rentrent dans, dans cette menace de blocage, la police faisant aujourd'hui partie d'ailleurs d'une bande rivale. En tout cas,
oui, c'est ça, on a le sentiment, oui, c'est ça.
Mais on a aussi cette partie folie, en fait. Il y a quelques années, il me semble, en fait, qu'on traitait peut-être davantage, ou peut-être qu'on les voyait moins, enfin, c'est possible aussi, hein. On traitait davantage les gens qui étaient un peu en difficulté psychologique. C'est-à-dire qu'on avait un cadre dans lequel ces gens étaient traités. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont psychologiquement perturbés et qui sont dans la rue et qui finalement sont un peu laissés un peu en liberté et qui peuvent malheureusement conduire à des actes de délinquance. Donc on a cet aspect des choses, donc c'est cette partie des gens psychologiquement instables, mais on a aussi effectivement une violence qui a augmenté. Liée à un certain nombre de facteurs, pas toujours très rationnels d'ailleurs. Je pense que c'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi, mais cette violence, elle se retrouve aussi, et c'est peut-être une explication de la délinquance, elle se retrouve aussi chez les citoyens, entre guillemets, plutôt classique, je ne dis pas normaux, parce que la normalité là-dedans, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un qui est intégré socialement, je me prends mon exemple, est-ce que moi je suis à l'abri un jour d'avoir une réaction violente à l'égard de quelqu'un qui viendrait m'agresser, ainsi de suite? Non, en fait, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Et je crois que, pour le coup, la Covid, en fait, a peut-être amplifié ce sentiment. D'abord, elle a créé une espèce de sentiment un peu d'abandon. Et quand on est abandonné, à un moment donné, on peut avoir des réactions totalement irrationnelles. Et on voit aujourd'hui les refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20 minutes quand même, avec, malheureusement, on l'a encore vu, des bilans dramatiques. Mais le refus d'obtempérer, ce n'est pas que le fait des délinquants. C'est aussi le fait des gens qui peut-être ont un peu bu, peut-être n'ont pas le permis, peut-être ont peur
panique.
Ou qui paniquent. Donc des gens qui, globalement, ne sont pas des délinquants. Ces refus d'obtempérer, c'est une violence à l'égard des forces de l'ordre. Alors après, on a aussi la responsabilité, me semble-t-il, alors pardon de faire aussi un peu de politique, mais on a aussi la responsabilité d'un certain nombre de politiques, avec un petit P, qui explique qu'il faut supprimer les bacs, que la police ceci ou cela, ainsi de suite. Ce sont des irresponsables. Je le dis, je pèse mes mots, ce sont des irresponsables. Atteindre l'autorité de l'État. Alors après, que tout le monde doive respecter une déontologie, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi quand on est tributaire ou quand on a une autorité en main. En revanche, expliquer politiquement que les outils d'antidélinquance, les outils policiers, sont des outils qui sont faits pour tuer, pour agresser, ainsi de suite, c'est irresponsable. Oui, mais c'est irresponsable. Je ne le dis pas d'ailleurs volontairement, parce que ce n'est pas bon, c'est pas vrai. Les policiers, les gendarmes et l'ensemble des forces de sécurité intérieure sont au service des citoyens. Moi, je les ai vus travailler de jour, de nuit, ils ne comptent pas leurs heures. Après, évidemment, il peut y avoir, à un moment donné, une action, je dirais, répréhensible. Mais ça, c'est la justice doit se prononcer. Et ce n'est pas aux politicards, aux politiciens, qu'il appartient de juger. D'ailleurs, j'observe qu'eux-mêmes, d'ailleurs, se gardent bien de se juger eux-mêmes. Parce que, évidemment, la République, c'est eux. Mais bon, moi, j'aime pas vivre dans leur République, hein, très clairement. Et je n'aimerais pas y vivre.
Richard Lissuret, merci beaucoup. Nous avons la chance de vivre dans une ville relativement apaisée. Donc, souhaitons que cela dure. Et on nous le doute que vous y contribuerez. Merci beaucoup. Merci à Simon Martin en régie technique. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez bien évidemment réécouter cette émission en podcast sur www.radiograndciel.fr. À très bientôt.